Apocalypse, chapitre 2, versets 8 à 11. À l'ange de Smyrne écrit : Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal.
Alors on continue ce matin la série sur l'Apocalypse. En se posant la question de l'actualité de ce livre qui est un peu déroutant quand même. Apocalypse Now, point d'interrogation. Apocalypse maintenant, avec le film des années 80, avec Marlon Brando, un film apocalyptique pendant la guerre du Vietnam. Mais on a vu il y a quelques semaines qu'Apocalypse ne voulait pas dire catastrophe. Apocalypse voulait dire révélation. Le mot grec apokalypsis veut dire révélation ou dévoilement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dès le premier chapitre, Dieu veut révéler les choses dernières à des églises locales, comme il est dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les églises, pour Dieu, ça semble vraiment important. Des églises locales, connues, avec des gens comme vous et moi, avec des individus aussi. Et les messages à ces églises nous sont adressés aussi en tant qu'individus. C'est beau de savoir que Dieu a choisi de se révéler ou de révéler les temps de la fin à des églises comme la nôtre. Et il va adresser ces églises à des messages à ces églises ou à des chandeliers dans le langage apocalyptique. Donc l'Apocalypse est un genre littéraire avec des symboles et le chandelier est le symbole de l'Église. Et Jésus marche au milieu de ces chandeliers. Jésus marche au milieu de ces églises. Il est lumineux. Sa tête et ses cheveux sont tout blancs. Son visage est lumineux comme le soleil. C'est une description dans Apocalypse au chapitre 1er. Ses pieds aussi sont comme du bronze poli qui réfléchit la lumière. Un être lumineux qui marche au milieu de ces églises. Toutes ces églises. C'est tellement beau comme image. Jésus marche au milieu de ces églises. Et dimanche dernier, nous avions parlé de la lettre à l'église d'Éphèse, comme un email de Dieu, godmail@ephese.com. Et on avait vu que c'était une église en service qui avait la volonté de faire les choses et de faire bien les choses, mais elle avait un problème. C'était celui de la perte de son premier amour. Comme des roseaux qui auraient progressivement asséché, comme c'était le cas vraiment pour Éphèse, qui était loin de la mer à cause de l'assèchement de ses rives. Des roseaux qui viennent envahir notre vie et qui nous empêchent de vivre de ce premier amour, de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus. Et maintenant, nous voguons vers Smyrne, deuxième ville du pays. Hein? Vers Smyrne, deuxième ville du pays, à l'est de la mer Égée, une ville florissante qui s'appelle aujourd'hui Izmir. Troisième ville du pays, 600 000 habitants, connue pour son université, sa foire internationale, ses relations portuaires. Homère de l'Iliade et l'Odyssée est né à Smyrne et Smyrne est fière de tout cela. Mais à l'époque, et d'un tout autre point de vue, elle a une autre réputation. Et vous l'avez entendu à la lecture, et il semble que l'église ou la ville de Smyrne n'est pas un lieu de tout repos pour les chrétiens. L'église est en souffrance. L'église est mise à l'épreuve. Si Éphèse, c'était l'église de la perte de son premier amour, Smyrne, c'est l'église en souffrance. L'église qui vit la souffrance. Une église qui, parce que l'église n'est pas toujours triomphante, rarement d'ailleurs, elle peut vivre des moments d'épreuve et de souffrance, mais Jésus marche avec cette église aussi. Cette église en souffrance, cet individu en souffrance, vous peut-être. Une église qui rencontre de l'adversité et même des adversaires. Vous avez entendu ce verset 9, ces adversaires de Satan, cette synagogue de Satan, ces juifs qui n'en sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Je ne vais pas pouvoir m'étendre là-dessus. Si vous avez un souci avec cette expression synagogue de Satan, vous pouvez me voir après, je vous expliquerai, enfin je tenterai de vous expliquer, mais ce n'est pas de l'antisémitisme de la première heure. Mais il faut revenir au contexte pour comprendre ses adversaires. Comme je vous l'ai déjà dit, on est dans l'Empire romain et l'Apocalypse s'adresse à des gens et des églises qui sont dans cet Empire romain. Et toutes les colonies romaines sont soumises au culte de l'empereur. Tout le monde doit s'y soumettre, de bon gré ou mal gré, mais en ce qui concerne ce culte de l'empereur, la ville de Smyrne était particulièrement en pointe et se distinguait par son enthousiasme pour le culte de l'empereur. C'est elle qui est la première de tout l'empire. Ça c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est elle qui, toute la première de tout l'empire, va ériger un temple en l'honneur de Dea Roma, la déesse Rome. Cicéron rappelle que Smyrne est appelée la Smyrne, la fidèle. Pas la fidèle à Christ, hein. La fidèle au culte de l'empereur, dans sa loyauté à Rome. Et tous citoyens de Smyrne étaient obligés, une fois par an, de dire Caesar, Curios, César, le Seigneur. Et de répandre un petit peu d'encens sur l'autel et de recevoir un certificat après qu'il a bien adoré l'empereur. Mais il y avait des chrétiens à Smyrne, des gens qui avaient un autre curios, un autre seigneur, qui avait Jésus comme seigneur, des gens réels, et qui vivait dans cet environnement et qui essayait de survivre. Et quelqu'un disait justement, nulle part la vie n'était plus dangereuse pour un chrétien qu'à Smyrne, à cause justement de ce zèle patriotique des municipalités, des autorités municipales. On s'acharne contre les chrétiens de Smyrne. Et quelques 60 ans, 70 ans plus tard, ces mêmes gens de Smyrne vont brûler au bûcher un des premiers chrétiens martyrs qui s'appelle Polycarpe et qui avait été certainement placé dans l'église de Smyrne par Jean l'apôtre. Et Polycarpe va dire, pendant 86 ans, il avait 95 ans, donc j'estime qu'il a été converti à 9 ans. Pendant 86 ans, j'ai servi le Seigneur et il ne m'a jamais fait défaut. Comment alors pourrais-je renier mon roi, mon sauveur ? Nous dit Polycarpe en 156 sur le bûcher dressé par les adversaires. Alors ce genre de témoignage de Polycarpe nous émeut, mais nous paraît un petit peu lointain quand même dans le temps. Et puis on voit Polycarpe, il a une auréole, moi j'en ai pas et je veux pas en avoir, enfin je veux surtout pas mourir martyr. Mais donc voilà, il y a les martyrs de l'histoire de l'Église, mais en même temps il y a encore aujourd'hui des chrétiens qui font face à des adversaires. Il y a quelques années, Yvonne était abonnée au New York Times, elle l'est plus maintenant, et il y avait, c'est pas un périodique chrétien, pas du tout, mais il y avait trois pages sur l'Église en Chine. Et le titre c'était « The War for China's Soul », la guerre pour l'âme de la Chine. Et on nous parle d'une ville, Hangzhou, et d'une église dans cette ville, une église de 5000 chrétiens. Et cette église était en réunion un 29 juillet, il était 14h30, quand les policiers, casqués avec visière et matraque, sont arrivés et ont tout détruit. Ils ont frappé sans discrimination, ils ont frappé dans le tas. Un témoin de l'autre côté de la rue raconte qu'il prenait les femmes par les cheveux, certaines déjà âgées, qu'il les faisait tournoyer et les lâchait. Un témoin dit « Ils nous ont traités comme des chiens ». Les policiers frappaient en disant « Où est votre Dieu ? Si vous voulez aller au paradis, on va vous aider à y aller au plus vite. Pourquoi votre Dieu ne vous aide-t-il pas ?» Voilà ce qui s'est passé à Hangzhou en juillet. Apocalypse Now pour l'église d'Hangzhou. Et à la fin de l'article, on interroge le pasteur chinois qui s'appelle Chou, qui est le type même du chrétien chinois moderne, un jean, un polo, un portable à l'oreille. Et il dit croire en une très ancienne foi, la foi chrétienne, celle qui a permis à des millions de chrétiens de survivre à la persécution. Et le pasteur Chou est très optimiste. Voilà, je cite. « La persécution, dit-il, n'est pas un problème, car le gouvernement chinois va apprendre à connaître qui sont les chrétiens et va réaliser que Dieu existe. » Et après ça, il dit dans un sourire, « Et après, ils deviendront chrétiens. » Et on a véritablement à apprendre de ces chrétiens chinois, ces témoignages qui renvoient à notre attitude dans la souffrance, dans l'épreuve, qui nous posent une question, la question de la fidélité. Car c'est bien de cela qu'il s'agit quand il est question de souffrance ou d'épreuve, il s'agit de fidélité. C'est elle qui est mise à l'épreuve par l'épreuve. Et l'appel de Jésus pour l'église de Smyrne et pour toutes les églises ou individus éprouvés est clair. C'est un appel à la fidélité. Sois fidèle jusqu'à la mort. Verset 10. Avec résister de la tour de Constance et Marie Durand. Et vous savez qu'en grec, vous savez peut-être pas, mais je vous l'apprends, le mot fidèle est basé sur un mot, sur le mot foi. Le fidèle, c'est celui qui a foi. Être fidèle, c'est continuer à faire foi, à faire confiance, à espérer, comme Abraham, espérer contre toute espérance. Et vous remarquerez, ou on remarquera, que c'est la seule église avec Philadelphie où il n'y a pas de menace, où il n'y a pas de reproche. Comme ce que j'ai contre toi pour l'église d'Éphèse, c'est que tu as perdu ton premier amour. Rien de tel pour l'église de Smyrne, simplement un appel à rester fidèle, et cela jusqu'à la mort. Un petit peu comme dans le mariage, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et j'ai entendu un jour à un mariage, le marié dans ses promesses orales s'est trompé, il a dit « jusqu'à ce que mort s'en suive ». Et ce qui est marrant, c'est que personne ne l'a repris. Tout le monde s'était, on était quelques-uns à sourire un petit peu en disant « bon, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. » Non, c'est ce que jusqu'à ce que la mort nous sépare, le mariage n'est pas une torture et la vie chrétienne n'est pas non plus un appel au martyr, mais un appel à la fidélité. Et la question se pose pour nous. Est-ce que vous êtes prêts à rester fidèles, quelles que soient les circonstances ? Jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Mais Jean donne aussi quelques encouragements pour rester fidèle au temps de l'épreuve. Et on peut voir trois encouragements qui sont un peu cachés, mais on est dans l'Apocalypse, donc ils vont être dévoilés, ils vont être révélés. Et j'aimerais que vous saisissiez ces encouragements, vous qui passez peut-être par une période d'épreuve, de souffrance, un deuil, un échec scolaire, ou un échec professionnel, une séparation douloureuse, un travail difficile ou pas de travail, un avenir incertain, un isolement, des problèmes familiaux, des responsabilités qui pèsent, des prières inexaucées, des rêves brisés, des déceptions dans la vie, On a parlé de maison tout à l'heure. Mais il y a des gens qui cherchent un logement. Ici même. Des personnes qui n'ont pas des papiers pour pouvoir rester en France. Des personnes qui sont sans rien. Saisissez-vous des encouragements de l'Esprit qui parle à l'Église de Smyrne. Et le premier de ces encouragements dans l'épreuve, c'est que Jésus les connaît, ces épreuves, ces souffrances. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas et qui sont un rassemblement d'adversaires. Je sais, je connais. Et ces deux verbes sont un encouragement pour celui qui est dans l'épreuve, parce que vous serez d'accord avec moi, le pire quand on est dans l'épreuve ou quand on est en souffrance, c'est que personne ne le reconnaisse, que personne ne le comprend, que personne ne le sait, ou alors le relativise. Ouais, c'est pas si grave. Ouais, mais je souffre. Ça, c'est le pire. Mais à Smyrne, cette église en souffrance, Jésus dit, je sais, je connais, je sais en détail, je peux même désigner l'adversaire, ce rassemblement d'adversaires. Jésus peut mettre des mots, des noms et des mots sur ce qui te fait souffrir au travail, dans ta famille, dans ta vie, tout simplement. Jésus sait. Jésus connaît ta situation, mais il ne la connaît pas de manière superficielle ou factuelle. Il sait aussi comment tu ressens les choses. Jésus est de ton côté aussi au niveau du ressenti, en profondeur, à l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'il l'a vécu. Et dans l'épître aux Hébreux, dans cet épître dont on ne connaît pas l'auteur, l'auteur, justement, concentre toutes les fonctions de l'Ancien Testament sur le Christ, sur Jésus-Christ. Il dit « Jésus est roi, Jésus est prophète, Jésus est souverain sacrificateur ou grand prêtre ». Mais au contraire du grand prêtre de l'Ancien Testament qui faisait l'expiation une fois par an, l'expiation des péchés du peuple en rentrant dans le Saint des Saints une fois par an, lors du Yom Kippour, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire « Car nous n'avons pas en Jésus-Christ un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis sans péché à des épreuves, à des souffrances en tout point semblables. » Nous n'avons pas un souverain, un prêtre insensible, un grand prêtre insensible, littéralement incapable de sympathiser. Sympathiser, sympathéo, souffrir avec. Pathos, c'est souffrir. Sim, c'est avec. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de sympathiser. Au contraire, il est tout à fait capable, il est tout à fait sensible parce qu'il a vécu ces épreuves, les mêmes que les nôtres, en tout point. Il les a ressenties aussi de la même façon. Jésus est un curios éminemment sympathique, dans le sens qu'il souffre avec nous. Et nous avons au ciel, depuis l'ascension, assis à la droite du Père, un homme. C'est ça l'incarnation. Nous avons un homme là-haut qui connaît, qui sait et qui intercède pour nous. Et le texte continue. Et alors, si nous avons un grand prêtre qui n'est pas insensible à tout ce que nous avons vécu, eh bien, approchons-nous de lui. Approchons-nous de ce trône de la grâce. Et cela change déjà beaucoup que de savoir que l'autre le sait, l'autre avec une majuscule, que cet ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église en souffrance. Et puis, deuxième encouragement dans l'épreuve, la souffrance est limitée dans le temps. Voici, verset 10, « Le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter et vous connaîtrez 10 jours de détresse. » Alors, à lire comme ça, c'est pas très encourageant. Mais en fait, cette allusion au temps passé dans l'épreuve, 10 jours, est un encouragement parce que c'est 10 jours limités. Il n'y aura que 10 jours. Alors, on est dans la symbolique, hein, c'est pas une prophétie pour dire qu'ils auront 10 jours de mise en examen. Mais c'est un chiffre qui se veut limité, ce sera peut-être 10 mois ou 10 semaines, 10 mois, voire peut-être 10 ans. Mais de manière métaphorique, en parlant de 10 jours, il veut leur signifier que ce temps d'épreuve sera limité dans le temps. L'épreuve n'est pas éternelle, c'est la vie qui est éternelle. L'épreuve, la souffrance, ne l'est pas. Le temps d'épreuve est limité dans le temps, mais peut-être à deux niveaux. D'abord, à court et moyen terme, la souffrance est limitée dans le temps. Il y a comme ça des temps d'épreuve qui prennent fin après 10 jours ou 10 mois, mais qui se terminent, une guérison. Mon père était malade 3 ans, et puis après 3 ans, il était guéri. Il y a aussi des réconciliations qui peuvent se faire dans le couple ou avec des amis, des temps de souffrance et d'isolement qui prennent fin. Il y a des enfants rebelles ou prodigues qui finissent par revenir à la maison et qui prendre leur envol. Il y a des réparations qui sont faites, il y a des rémissions. Et oui, il y a les périodes de souffrance prennent fin, mais pas toutes. Il y a des maladies incurables, il y a des maladies dégénératives, il y a des cancers qui mènent à la mort. Il y a, par exemple, le cancer du pancréas qui est incurable. Et vous vous souvenez que Timothy Keller, ce pasteur de New York qui a fait du bien au monde entier par ses écrits, et il est mort à 72 ans de son cancer du pancréas, et il est mort en mai dernier, et il disait, avant de mourir, il a écrit plusieurs articles, d'autres encore dans le New York Times en 22, où il disait, en parlant de là où il allait, « Dieu va tout remettre en ordre à la fin, la souffrance disparaîtra, le mal disparaîtra, le cancer du pancréas disparaîtra. » À la fin, les épreuves, la souffrance prendront fin. Et c'est l'enseignement de tout le Nouveau Testament et de l'Apocalypse au chapitre 21 que nous verrons. Cette vie est marquée par l'épreuve et la souffrance. Il y a des bénédictions, hein, des bénédictions temporelles, il y a des bénédictions, mais qui sont temporaires. Et nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre, mais il y a cet encouragement qu'à la fin, Dieu, selon la phrase de Timothy Keller, va tout remettre en ordre. J'aime bien ça. Et Apocalypse 21, le mal, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni douleur, ni souffrance. Il essuiera les larmes de leurs yeux. Waouh ! Les souffrances, la souffrance à une fin. Alors c'est un encouragement un petit peu difficile à saisir, hein, parce que moi, comme beaucoup d'entre vous, je suis un baby boomer, donc né après la guerre, après 45. Et les baby boomers, par définition, on n'a jamais connu la guerre. Mes grands-parents ont vécu les deux guerres, ma mère une seule. Mais on n'est pas habitué à souffrir. On n'est pas habitué à résister, et puis on est dans le mode il faut que tout soit facile, en tout cas moi je le ressens comme ça, et que il faut avoir tout et tout de suite, et qu'on n'a pas le temps d'attendre quoi que ce soit. Et puis après nous, il y a la génération X et il y a la génération Y, et puis maintenant il y a la génération millénium, etc. Et on n'est pas préparé Alors c'est un encouragement à prendre par la foi. Et notre prière ce matin pourrait être « Seigneur, je replace ma confiance en toi, je me replace dans ta vision du monde et du temps et je m'accroche. Je renouvelle ma fidélité. Je continue, contre toute espérance, à espérer. Comme Abraham, comme Marie Durand dans la Tour de Constance, ou comme le pasteur Cho en Chine. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église en souffrance. Et puis le troisième encouragement, Jésus nous fait participer à sa victoire. Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Ça n'a pas l'air, mais ceci est un encouragement pour l'Église de Smyrne, parce qu'il semble que Jean fait là une allusion à l'histoire de la ville de Smyrne. La ville de Smyrne qui désirait avant tout être la première en Asie mineure à l'époque, en Turquie actuelle, mais qui n'était que deuxième après Éphèse. Et Smyrne aimait s'appeler la gloire de l'Asie pour donner un message clair à sa voisine et concurrente Éphèse. Eh bien, à cette ville ou à l'église dans la ville qui veut être la première, Jésus dit « C'est moi le premier et le dernier, l'alpha, première lettre de l'alphabet grec, et l'oméga, dernière lettre de l'alphabet grec. » Et quand il est dit « celui qui est mort et qui est revenu à la vie », il parle de la croix et de la résurrection, et il dit à cette église dans la ville « je suis celui qui redonne la vie, je suis le ressuscité qui a vaincu la mort et qui a obtenu la victoire sur la mort, et à cette victoire, je vous invite à y participer. Toi, petite église en souffrance, toi, petit chrétien, je parle à moi-même, petit chrétien, en souffrance aussi. » Verset 10, « Et je te donnerai la vie comme prix de la victoire. » Verset 11, « Au vainqueur, la seconde mort ne te causera pas de mal. » C'est quoi la seconde mort? La seconde mort, la première mort, c'est la mort physique, comme Polycarpe sur le bûcher en 156. La seconde mort, c'est la séparation d'éternel avec Dieu et avec son amour. Et cette seconde mort n'a pas de prise sur les fidèles. Ils seront avec Dieu par Jésus-Christ. Ils sont en Dieu par Jésus-Christ. Et Paul, encore lui, aura cette phrase magnifique, « Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. » Littéralement, nous sommes hyper conquérants. Et cette participation à la victoire du Christ est aussi un encouragement puissant, savoir que nous sommes, en étant au Seigneur, des hyper vainqueurs. Mais il nous faut aussi avouer sans honte le décalage entre ce qui est écrit là et ce que je vis moi, et peut-être ce que vous vivez vous est énorme. Ce que l'on vit au quotidien, est-ce que j'ai l'air victorieux? Est-ce que je vais de victoire en victoire? Non. Quand je suis dans l'épreuve, je n'ai pas l'air victorieux. Et il ne s'agit pas de faire semblant. Il ne s'agit pas de jouer au super-héros ou au super Dupont, Antoine, ou au super chrétien. Il s'agit là aussi de se saisir de cet encouragement par la foi, par la confiance. Et notre prière pourrait être... Je sais que tu es victorieux et que tu partages ta victoire avec ceux qui te font confiance jusqu'à la fin. Je le sais, Seigneur. Je te fais confiance. Je fais confiance à ta victoire, pas au sentiment que j'en ai de la victoire. Pas si je me sens victorieux ou pas. Je fais confiance à ta victoire. Celle que tu as remportée objectivement, clairement, et j'ose le dire, historiquement, à la croix et à ta résurrection. C'est en cela et en cela seul que je veux miser pour l'avenir. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église en souffrance et chacun de nous aussi. Voilà les encouragements que Jésus adresse à l'église de Smyrne, cette église en souffrance, et à nous ce matin. Et cette lettre nous pose la question de la souffrance dans ma vie, dans la tienne. On a tous des réactions différentes par rapport aux épreuves, par rapport aux souffrances qui adviennent. Il y a là, certains parmi nous qui réagissent par la colère. Mais en colère, une sourde colère, une colère latente qui est là et qui de temps en temps explose parce qu'on souffre. La fuite en avant parfois, dans les excès, le repli sur soi, les addictions quand on souffre. On est fragilisé par rapport aux addictions sous toutes leurs formes, ou l'amertume. La compensation aussi, on compense pour décompresser, on compense pas toujours de la bonne manière. Et toutes ces réactions sont à placer sous la grâce de Dieu qui pardonne et qui nous relève. Mais Jésus nous appelle à rester fidèles comme les chrétiens de Smyrne en saisissant par la foi les encouragements qui viennent de Jésus lui-même, celui qui marche au milieu de ses églises, qui tient les sept étoiles dans sa main, ce personnage lumineux dans nos vies. Ces encouragements qui consistent à dire « Jésus connaît tes souffrances ». Les souffrances sont limitées dans le temps. Vous vous souvenez des deux niveaux. Jésus nous fait participer à sa victoire. Vous vous souvenez de la phrase de quelqu'un, un auteur, qui disait que Smyrne était l'endroit au monde le plus dangereux pour les chrétiens, mais quelqu'un d'autre disait que l'église de Smyrne était le lieu idéal aussi pour faire des héros de la foi. Mais on peut penser qu'il y a un autre endroit pour faire des héros. C'est là où vous êtes, dans l'épreuve, peut-être. Amen.